Cédric Adrovert.
Bonsoir, à Noiraigue, on n'y va pas par hasard. C'est notre invité, un enfant du Val de Travers, comme il se décrit fièrement, qui me l'a dit lors de notre première rencontre. À Noiraigue, j'y suis donc pas allé par hasard, mais pour rencontrer cet ancien banquier reconverti qui travaille beaucoup aujourd'hui avec le secteur du luxe. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Sachez juste que je m'attendais à croiser des locaux luxueux, genre bling-bling. Mais c'est face à une maison pleine de cachets que je me suis retrouvé. J'attends le patron, j'imagine le voir arriver en costard, ancien banquier forcément. Mais non, c'est en chemise à carreaux avec une grosse veste que je le vois débarquer, poignée de main franche, très accueillant. Il a tout d'un bon vivant. On s'installe dans l'espace accueil. Il y a des photos des employés au mur, on dirait un peu des photos de famille. Un équipement moderne partout, projecteur, haut-parleur, une grande table. Le chocolat qui accompagne le café est succulent, l'odeur partout est alléchante. Voilà, je vous le dis, je lâche le morceau. Sa reconversion, notre ancien banquier l'a faite dans le chocolat. Depuis 3 ans, il dirige Jaco Chocolatier. On parle de l'entreprise, de sa reconversion, on parle de tradition et de modernité, d'artisanat et de virtuel, d'un atelier où on emballe tout à la main et de plateforme internet. Vous l'avez compris, on y reviendra, le lieu est empreint de passé et de futur. Mais pour le présent, on visite l'atelier, on déguste du chocolat, les pralinés s'enchaînent, chacun a ses caractéristiques, son pourcentage de cacao, son histoire. Et notre invité les connaît par cœur. Et là, je me dis qu'il y a des jours où je fais un métier formidable. Nicolas Humer, bonsoir.
Bonsoir.
Quand on est économiste de formation, comme vous, banquier pendant 21 ans, comment on devient patron de chocolaterie ?
Alors, c'est un petit peu l'hasard qui a fait que je devienne patron de cette magnifique entreprise. Il est vrai, quand on a la chance d'avoir travaillé 21 ans dans le milieu bancaire, on a aussi eu la chance de rencontrer beaucoup de personnes, de clients. Et puis, c'est vrai que j'ai eu des contacts particuliers avec des entrepreneurs, entrepreneurs également du milieu horloger. Et c'est vrai que c'est une rencontre fortuite en 2012 avec l'ancien propriétaire de Jaco Chocolatier, Francis, qui a fait que j'ai complètement viré de bord, si on peut dire.
Vous avez viré de bord. En même temps, vous aviez déjà un lien avec le chocolat Jaco, tout gamin. Racontez-nous juste cette histoire.
Alors effectivement, étant un enfant du Val de Travers, de Fleurier plus particulièrement, j'avais la chance le vendredi matin, au réveil, d'avoir un cornet de truffes et pralinés sur la table, car mon père, à l'époque, ramenait en voiture le papa de Francis le jeudi soir après la Concorde, donc le cœur de champ.
À 42 ans, vous lâchez donc votre métier de banquier, vous reprenez cette entreprise, marié, des enfants. Quelle a été leur réaction ? Ils ont été surpris ?
Alors, surpris, mais pas longtemps. Surtout heureux, après quelques minutes.
Bon, les enfants, j'imagine.
Alors, effectivement, les filles particulièrement, mais l'épouse également. Être femme de banquier n'est pas chose facile tous les jours. Et c'est vrai que là, je commençais à retrouver une certaine indépendance d'esprit qui s'est assez rapidement... Mon épouse et mes enfants ont assez rapidement aussi vu à travers mon enthousiasme.
Alors ça, c'est le côté familial. Après, il y a le niveau professionnel. Vous n'étiez pas un expert en chocolat en arrivant. Comment vous avez fait pour vous présenter comme crédible les premiers jours, disons ?
C'est vrai, quand je suis arrivé dans cette entreprise, je la connaissais, je savais que c'était une entreprise qui avait mis la barre très haut, qui travaillait depuis 30 ans pour des entreprises prestigieuses. Et c'est là aussi ce qui m'a fait... qui m'a rapidement décidé à reprendre cette entreprise, c'est que on s'est rendu compte, quoi, je me suis rendu compte que le produit était juste magnifique. Il est vrai qu'il y avait un autre élément qui était très important, c'était le maître chocolatier, qui était là depuis plus de 30 ans, le chef de production.
On l'entendra tout à l'heure d'ailleurs.
Exactement, qui effectivement est un homme également très passionné. Et c'est peut-être aussi cette rencontre entre un chocolatier et un économiste qui fait qu'on a voulu véritablement se développer et puis marquer un positionnement fort.
Alors Jaco Chocolatier, c'était déjà une marque réputée, vous l'avez dit, une entreprise qui avait toute une histoire. Ça a été quoi vos premières actions à la tête de l'entreprise ?
Alors tout d'abord, on s'est rapidement rendu compte que cette entreprise avait un produit qui était juste génial, mais il est vrai que c'était un produit artisanal, donc les emballages étaient aussi artisanaux, et de ce fait, assez rapidement, on a décidé de créer une marque, et puis de véritablement aussi pérenniser tout ce qui avait été fait.
Mais il y avait déjà une marque, non ?
Il y avait une marque, mais qui n'était pas clairement affichée et positionnée au niveau du marché. Et c'est vrai que quand on a la chance d'avoir un produit aussi magnifique, on se devait de véritablement poser une marque et puis également se positionner au niveau de cette marque.
Il y avait la marque, il y avait également l'organisation. Il y a beaucoup de choses que vous avez dû réorganiser en arrivant.
Alors effectivement, il est vrai qu'on a passé d'une entreprise, je dirais, une petite entreprise artisanale à une PME. Et c'est vrai que de part aussi le développement, on a dû organiser certaines choses, mettre des choses en place, notamment au niveau de la logistique et de l'administration.
Il y a plus de la moitié de votre chiffre d'affaires qui vient, on va dire, d'entreprises, des marques horlogères, du secteur du luxe, d'autres marques aussi. Et en même temps, à Noiraigue, la boutique, elle accueille des visites de classe, des voisins, monsieur et madame, tout le monde. En termes de positionnement, comment on fait pour gérer ce grand écart?
Alors c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir travailler avec un produit où chaque fois qu'on touche une personne, chaque fois qu'une personne vient aussi expérimenter nos produits par rapport à une dégustation, une visite, on les touche de manière personnelle, mais souvent on les touche aussi de manière par rapport à leur environnement professionnel. Il est vrai que plus de la moitié du chiffre d'affaires est réalisé grâce aux cadeaux d'entreprise, pas seulement à Noël, mais aussi lors d'événements ou autres. Et c'est véritablement un domaine dans lequel on s'est spécialisé dans la personnalisation de chocolat, d'emballage et autres.
Vous abordez pas un patron d'entreprise de la même manière qu'un client qui vient à la boutique. C'est comment on fait pour vraiment avoir les deux façons de travailler?
Alors paradoxalement, on reçoit les gens de la même manière.
Ah bon?
Et puis vous l'avez aussi remarqué en venant à Noiraigue, on a cet espace accueil qui a été le premier gros investissement. Pour véritablement, c'est notre premier grand outil marketing qu'on a mis en place pour pouvoir aussi montrer ce qu'on faisait, pour partager aussi dans le cadre d'ateliers et autres. Et il est vrai que maintenant, on a aussi beaucoup de conseils d'administration, de séances d'entreprise ou autres qui se font hors les murs dans le cadre de notre chocolaterie.
Noiraigue, on en a déjà un petit peu parlé, mais pour vous, c'était pas négociable. On déplacera jamais la chocolaterie pour la rapprocher, je sais pas, de la Chaux-de-Fonds, par exemple?
Non, alors c'est pas à l'heure du jour, et à mon avis, ça le sera jamais. Pour la simple et bonne raison qu'il y a l'histoire qui a commencé en 1949 à Noiraigue. On a quand même cette chance aussi d'être au pied du Creux du Vent. C'est quand même un site, effectivement, qui est connu loin à la ronde. Et de ce fait, il est vrai que par respect pour le passé, par rapport à l'enracinement, il est important que l'on garde, et il n'y a pas de raison qu'on parte de Noiraigue pour aller s'établir ailleurs.
Cette espèce de paradoxe ou de fausse contradiction entre clients dans le luxe et monsieur et madame tout le monde, on le retrouve aussi en termes de savoir-faire. Hein, le produit est artisanal, emballé à la main par des emballeuses. En même temps, vous faites 42 tonnes de chocolat par an, il y a quand même une certaine production, il y a un site web qui est très contemporain. Là aussi, hein, ça demande des compétences variées. Comment on modernise une entreprise sans toucher à la tradition?
Alors, ce qui est important de savoir, c'est qu'on travaille exactement, d'ailleurs, j'aime pas utiliser le terme de production, mais j'utilise plutôt le terme de manufacture. On travaille à l'image d'une manufacture horlogère où tout se fait à la main. Et chez nous, au niveau de Jaco Chocolatier, 100% de la production sera toujours emballée à la main. Aujourd'hui, on travaille avec, au maximum, dans les grands pics, 8 personnes. Si demain, il en faut 10, 12, 15 ou 20, c'est pas un problème. Mais on continuera véritablement d'emballer nos chocolats à la main.
Et quand vous êtes arrivé, vous, et que vous avez voulu toucher à l'organisation, pas au savoir-faire, pas à la tradition, mais vraiment à l'organisation, vous avez connu de la résistance au changement de la part des gens?
Alors, j'ai absolument connu aucune résistance, et c'est là que des fois il y a aussi ce paradoxe par rapport à des gens, des terriens, beaucoup de gens viennent du village, de la région. C'est des gens qui effectivement se réjouissaient aussi de voir qu'une marque dans laquelle, ou une entreprise dans laquelle ils travaillaient depuis plusieurs années, était complètement pérennisée et continuait de se développer.
On va rester à Noiraigue puisqu'on y est, rester dans la tradition aussi. On va passer aux produits parce qu'on a envie de goûter maintenant. Joëlle, elle s'est pas fait prier pour venir vous rendre visite. Elle y a rencontré Blaise Descombes, le maître chocolatier dont vous parlez tout à l'heure. On les retrouve tout de suite.
Sortie de boîte.
Là, on est en train de fabriquer des plaques caramel fleur de sel sur une couverture de 56%, donc une couverture noire. On vient de finir notre caramel, on l'a moulu et ensuite on le mélange à notre couverture avec deux, trois petits ingrédients encore. Et tout ça va passer dans une fourreuse, ça veut dire qu'on a une machine qui va nous permettre de doser, une doseuse, vraiment au gramme près et pour avoir un produit fini.
Alors si on se rapproche là de la fabrication, on est donc sur ces plaques chocolat 56% caramel fleur de sel.
Voilà. Vous voyez, cette machine est une doseuse one shot. On a créé un petit programme avec les quantités, les volumes. Ensuite, ici, vous avez un petit œil électronique qui va voir arriver le moule, qui va déclencher le pompage, qui va juste doser ce qu'il faut, passer au moule suivant. Et ce qui est important dans les plaques de chocolat, une fois qu'elles sont fourrées, une fois qu'elles sont remplies, c'est, vous entendez, on vient de mettre en marche la vibreuse. C'est pour enlever toutes les petites bulles d'air qu'il y a à l'intérieur, pour vraiment avoir une surface bien plane, lisse et agréable à l'œil. On va passer sous la vibreuse. On va mettre ces plaques de chocolat sur des grandes plaques perforées en aluminium. Et ça va partir sur une échelle dans une chambre froide à 8 degrés environ pendant une demi-heure, trois quarts d'heure. On va pouvoir démouler, réchauffer les moules parce qu'il faut faire attention que le moule soit bien tempéré avant de remplir nos plaques avec du chocolat, de la couverture, et recommencer le processus.
Et puis avant, je voyais que le chocolat, il passait sous le sèche-cheveux.
Ah, ça c'est encore un secret, faut pas tout dire. Alors, c'est pas un sèche-cheveux, ça c'est une petite encore une invention Jacques au chocolatier. On a beaucoup de machines ici qui sont faites sur mesure. On a de la chance d'être dans une région où il y a pas mal d'artisans qui peuvent nous faire des choses assez rapidement et des magnifiques choses. Et ça, c'est simplement un petit tunnel pour justement tempérer le moule avant de mettre le chocolat à l'intérieur. Comme je vous ai dit, si le moule est trop froid, le chocolat étant tempéré, ça veut dire que le chocolat, on l'a amené à température. Ce chocolat sort ici à 32 degrés environ. Si au contact du moule, il cristallise trop vite, on n'aura pas un bel aspect dessus, on aura un aspect gris avec des auréoles. Donc il faut vraiment que toutes les températures, ça c'est la plus grande difficulté du chocolatier, c'est de travailler avec des températures très précises, aussi bien sur le moule que sur le produit fini.
Ici, il y a du chocolat qui coule en permanence ici?
Oui, alors comme je vous parlais de température tout à l'heure, le chocolat, on ne peut pas simplement le fondre, ça serait beaucoup trop facile. Hein. Le chocolat, il y a un souci, c'est qu'il a trois cristaux gras qui cristallisent à trois températures différentes. Ça veut dire qu'on doit fondre le chocolat à 50 degrés en moyenne, suivant le chocolat où on sera un petit peu plus bas. Un chocolat à forte teneur de cacao, on sera un peu plus haut. Le fondre à 50, le descendre à 27, pour ensuite le remonter à 30 ou 31. Et j'ai certains grands crus, je vous parlais de Criollo tout à l'heure, certains grands crus qui sont tempérés au dixième degré.
Vous n'avez pas la tentation, chaque fois que vous passez devant, de mettre le doigt sous la fontaine à chocolat?
Il n'y a pas que la tentation, on le met. Il faut. On est obligé de contrôler les températures.
Sortie de boîte.
Nicolas Hemer, vous n'avez pas pris la fontaine à chocolat avec vous?
Non, pas aujourd'hui. À la place, j'ai pris un plateau avec quand même une diversification au niveau des produits, mais la fontaine ne se déplace pas.
On a entendu Blaise Descombes, maître chocolatier, 30 ans d'expérience dans l'entreprise. On sent quand vous nous parlez de lui que c'est quelqu'un de central, d'important. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire sa passion pour le chocolat?
Alors effectivement, c'est une personne qui avant tout a une longue expérience et je pense qu'à ce niveau-là, c'est quelque chose qu'on ressent complètement. Et il est vrai que depuis la reprise de l'entreprise et au vu de ma formation d'économiste, c'est pas moi qui allais lui dire comment il allait devoir faire ses recettes ou de nouveaux produits. Donc on a aussi un échange qui est très intéressant à ce niveau-là pour les nouveaux produits et puis pour le développement de l'entreprise. Il est vrai que derrière Blaise Descombes, il y a aussi une équipe de trois chocolatières dont la deuxième a aussi plus de 15 ans d'expérience. Et de ce fait, on a beaucoup d'échanges entre la production, donc la manufacture, l'emballage et aussi le côté logistique pour le développement de nouveaux produits.
Donc il y a une sorte de spécialisation dans l'entreprise, vous sur le côté commercial, lui sur le côté recette chocolat. On peut résumer les choses comme ça?
Alors on peut les résumer comme ça et j'ajouterais qu'effectivement depuis la reprise, le gros avantage c'est que Blaise Descombes a pris véritablement une position où il peut aussi prendre du temps pour le développement. C'est la force aussi de l'entreprise, c'est qu'on vient chaque fois aussi avec des nouveaux produits, aussi des produits de saison, des éditions limitées, des éphémères. Et de ce fait, on arrive véritablement à se positionner de manière différente.
Et Blaise Descombes, il vous a transmis aussi sa passion, parce que quand vous êtes arrivé et que vous avez repris Jacques au chocolatier, vous aimiez le chocolat, mais vous n'étiez pas un expert. Et du coup, aujourd'hui, moi j'ai eu l'occasion de parler, de discuter avec vous. Vous connaissez l'histoire de chacun des chocolats. On va quand même vous en demander de nous en raconter une, votre préférée.
Alors, mon chocolat préféré est un Ariba Grand Cru 72%, conché 72 heures.
Conché, donc, c'est-à-dire?
Le conchage, c'est un process, ça a été longtemps le secret de polichinelle du chocolat suisse. Donc, c'est masser le chocolat, le rouler dans une cuve tempérée à 51 degrés pour évaporer les amertumes.
Alors, quelle histoire pour ce chocolat?
Alors, ce chocolat particulièrement, là, on est dans un Criollo, dans un Grand Cru pur, n'a pas forcément une histoire particulière. Par contre, une belle histoire, c'est les clous de Noiraigue. C'est un chocolat qui a été développé en 1998, lors du millième anniversaire de la commune de Noiraigue. À ce moment, il a fallu réfléchir. C'est vrai qu'on est à Noiraigue. Blaise Descombes dit souvent qu'on n'est pas à la Bahnhofstrasse ni à la rue du Rhône. Donc, il faut faire preuve d'innovation, de créativité pour que les gens viennent également. Et là, à ce moment, on a développé ces clous, puisque à l'époque, fin du 19e, il y avait des cloutiers le long de la rivière à Noiraigue. Et ces clous ne sont pas seulement chocolatés, mais en plus, ils sont fourrés de bout en bout.
Le lien entre la commune, l'histoire de la commune et Jaco Chocolatier. On va parler, vu qu'on a parlé du produit et de votre parcours, parlons un petit peu de l'avenir. C'est quoi les défis principaux auxquels vous êtes confrontés, vous, aujourd'hui ?
Alors aujourd'hui, les défis principaux, c'est le développement hors du canton. Il est vrai que sur Neuchâtel, on a la chance d'avoir trois magnifiques boutiques à Fleurier, la petite gâterie, à Noiraigue, Jaco et sa chocolaterie, ainsi que la boutique en ville de Neuchâtel. Il est vrai que le développement d'une entreprise comme la nôtre, en dehors du canton, demande de gros investissements si on veut s'implanter sous notre propre marque. De ce fait, on a cette année beaucoup investi dans la communication et aussi sur la mise en place d'un nouveau site internet avec une boutique en ligne.
Le modèle de distribution est intéressant parce que vous optez pour des boutiques que vous contrôlez, vous, de A à Z. C'est le développement que vous voulez prendre. Pour quelles raisons ?
Il est vrai qu'on est aussi dans le cadre d'un produit d'exception et de ce fait, on veut avoir une certitude par rapport à sa distribution. On pourrait tirer de nouveau le parallèle par rapport aux marques horlogères qui préfèrent de loin aussi avoir leur propre boutique, leur propre marque pour la distribution de leur produit.
Oui, il y a aussi des grandes marques, mais tout public. Citons une marque de téléphone célèbre, une marque de café célèbre qui veulent absolument avoir leur propre boutique. Ça vient de mauvaises expériences avec des revendeurs ou c'est vraiment juste une volonté de tout contrôler de A à Z ?
Non, les crèmes à produits, effectivement, on aurait eu de la possibilité avec certains produits, notamment les crèmes à tartiner, puisque l'ensemble de notre production est quand même sans huile de palme et sans graisse saturée. Donc, on a un avantage effectivement concurrentiel par rapport au marché. On aurait pu entrer dans certaines grandes chaînes par rapport à certains produits spécifiques, mais le problème, après, on n'a plus aucun contrôle sur la distribution.
Et c'est mauvais pour l'image de marque d'être dans des grandes chaînes ?
Alors, complètement.
On a parlé tout à l'heure, vous avez dit que la majorité du chiffre d'affaires venait des entreprises, des cadeaux d'entreprises. Est-ce que c'est un défi pour l'avenir de moins dépendre des gros clients ?
Oui et non. Pour moi, le défi, c'est effectivement de pouvoir se développer auprès de nouvelles entreprises. Il est vrai, quand j'ai repris l'entreprise, 90% des entreprises pour qui on faisait du chocolat étaient dans le secteur horloger. Aujourd'hui, on a aussi beaucoup diversifié par rapport à d'autres secteurs. Et il est vrai que du côté de la Suisse allemande en particulier, actuellement, il y a des belles ouvertures qui se font.
Un autre développement intéressant, c'est comment vous vous diversifiez. Vous avez racheté l'auberge de Noiraigue. On y trouve des desserts à base de chocolat, forcément. Aller chercher des synergies en dehors du secteur d'activité propre, c'est une stratégie ou c'était plutôt une opportunité ?
Alors, les deux. C'était une opportunité et c'est devenu une stratégie dans le sens où l'auberge de Noiraigue, bien qu'au début, on ait pu le prendre pour un acte d'opportunisme uniquement. C'est vrai que c'était aussi l'idée de mettre la philosophie de Jaco Chocolatier un peu plus sur la place, un peu plus à la vue de tous ces gens qui viennent régulièrement sur Noiraigue, également grâce au Creux du Vent. Et c'est vrai que de ce fait, on a la possibilité d'avoir une magnifique vitrine et de mettre aussi certaines choses en avant.
Vous travaillez beaucoup avec le secteur horloger, on l'a dit. J'ai même pu voir un bracelet de montre en chocolat et franchement, ça fait plutôt illusion. En général, dans la vie, vous êtes quelqu'un de ponctuel ?
Ça dépend.
Ça dépend ? Bon, ben alors on verra.
Je me laisse des fois un peu dépasser par mon agenda.
On verra si la montre que vous présente Marie-Lise Saillard dans sa chronique est faite pour vous. On écoute.
Pile à l'heure.
Pile à l'heure ou presque aujourd'hui, puisque nous parlons d'une marque qui a choisi le contre-pied des autres. Loin de la course à la précision, les quatre amis qui ont créé Slow avaient trop souvent l'impression d'être dans une roue de hamster. Ils se sont dit que finalement, dans la vie, on n'en est pas à une minute près. Le concept, c'est donc d'afficher sur la montre une journée entière. Alors un mouvement de 24 heures au lieu de 12, ce n'est pas nouveau, vous allez me dire, et vous aurez raison. La grosse différence, c'est que la montre Slow n'a qu'une seule aiguille. Et comme il n'y a que trois graduations inscrites sur le cadran, entre deux indications d'heure, on sait par exemple qu'il est entre 11h15 et 11h30, mais on ne peut pas être beaucoup plus précis. Le message derrière tout ça, c'est qu'il faut arrêter de courir derrière chaque seconde ou même chaque minute. Cette nouvelle façon de lire l'heure correspond à un choix, celui de vivre moins dans le stress. vous devez prendre un train à 14h25, vous vous arrangez pour être à la gare un peu avant. Avec une montre traditionnelle, un peu avant, c'est parfois seulement 2 ou 3 minutes. Et alors, on se met à courir. Avec cette montre, un peu avant, ça peut être 10 ou 14 minutes. Et là, on a le temps de prendre un café, de bouquiner ou de donner un long baiser. Dernière info, les montres slow ont un mouvement à quartz qui explique en partie leur prix abordable entre 250 et 320 francs, mais elles sont fabriquées en Suisse.
La montre slow compatible en étant chef d'entreprise, à votre avis, Nicolas Humer ?
Oui, alors tout à fait, effectivement.
Et un bon vieux yodel suisse pour terminer cette émission. D'ailleurs, on aurait pu parler du Swissmade aussi, ça fait toujours son effet quand on parle de chocolat. Vous exportez beaucoup à l'étranger ?
Alors, pas de manière directe, et ce n'est pas une volonté en soi. Il y a déjà tellement de belles choses à faire en Suisse. Par contre, grâce à nos clients prestigieux, on a la chance de voir notre marque à travers le monde.
La semaine prochaine, dans Sortie de boîte, nous rencontrerons les cofondateurs d'une entreprise spécialisée dans le management visuel sur écran tactile. En gros, suivre sa production et fixer les priorités directement sur sa tablette. Ça vous parle pour suivre la production de chocolat ? Non, il n'y a pas besoin de ça ?
Pas pour l'instant, mais je me réjouis d'entendre ça.
Bah, vous serez à l'écoute. Merci de nous avoir prouvé qu'on peut parler de chocolat et d'économie en même temps. Défi relevé. Très bonne soirée à vous, Nicolas.
Avec plaisir. Merci. Bonne soirée.
Et si vous voulez réécouter cette édition chocolatée de Sortie de boîte, vous la retrouverez sur notre site internet sous programme émission Sortie de boîte. À la semaine prochaine.